bizarre.
Exactement, c'est bizarre.
Je dis simplement, c'est bizarre. Première chose, bizarre. Deuxième chose, bizarre.
Je trouve ça pour le moins bizarre.
Vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays.
Non, mais les journalistes, vous avez ça d'extraordinaire.
Mais non, mais...
Vous foutez rien et vous reprochez aux autres de pas avoir fait. Non, vous foutez rien, vous n'avez pas écouté.
Les Concernés, l'émission de radio qui reprend la parole à ceux qui nous l'ont confisqué.
Bienvenue dans notre émission Les Concernés. Les Concernés parce que nous reprenons la parole à ceux qui cherchent à la monopoliser sur des sujets qui ne les concernent pas. Oui, cette émission est faite pour les non-représentés, les oubliés, les délaissés, les cultivés et les gens ouverts d'esprit. Elle est faite par des jeunes de banlieue, car comme le dit le titre Grand Paris de Medine, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Aujourd'hui démarre donc notre deuxième opus et avec un entretien avec Newell, militante pro-palestinienne. Originaire d'Argenteuil et engagée depuis 2004, éducatrice spécialisée, donc de nature engagée, ce sera donc avec plaisir que nous échangerons autour de la question palestinienne, mise à nouveau en lumière lors des événements qui se sont déroulés sur place et qui ont fait la une des médias dans les dernières semaines. Newell, bonjour.
Bonjour.
Ça te va la présentation ? C'est pas... Ça va, je me suis pas planté. Top. Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous décrire ton action, toi, en tant que militante, enfin ton parcours ?
Moi, j'ai découvert la Palestine très très jeune, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'avais 18 ans. J'étais à la fac, je faisais des cours d'ethnologie et on avait un stage à effectuer et comble du comble, j'ai décidé d'aller effectuer en Israël. Okay. Donc voilà, je suis arrivée en Israël, c'était cool, c'était beau, c'était bien, super bien accueilli et tout ça. Et je me suis perdue dans un quartier à Jérusalem, qui s'appelle le quartier de Silwan. Et c'est le quartier arabe en fait. Et là, j'ai découvert... Tout autre paysage d'Israël, entre guillemets. Moi, enfin, on connaît tous plus ou moins le conflit, mais à cette époque-là, je le connaissais sans plus. On nous avait déjà bien briefé à l'époque, avant d'y aller, en nous disant que c'était quand même une zone de conflit, qu'il fallait faire attention, etc., etc. Et en fait, j'ai parlé là-bas avec des habitants ce jour-là, et en fait, j'ai lâché mon stage. Et je me suis retrouvée en Cisjordanie, et je suis restée 6 mois. Et voilà, je suis revenue en France après, et voilà. Évidemment, j'ai eu plein de problèmes parce que le visa, il n'était que 3 mois. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert la Palestine. J'ai découvert la Palestine avant de militer pour la cause palestinienne.
Limite par hasard, en fait.
C'est carrément par hasard. D'ailleurs, j'ai grave honte. Il y en a plein qui disent qu'avant, j'étais sioniste. que sur le coup, et puis après, je me suis repentie. Mais ouais, c'est vraiment un pur hasard. Après, je crois pas trop au hasard.
Avant, t'en entendais parler, du coup, mais sans plus. T'étais pas forcément...
J'avais 18 ans. Enfin, si tu veux, à l'époque, c'était pas autant, on n'en parlait pas autant en fait de la Palestine. Ou alors peut-être que, enfin, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les médias d'aujourd'hui, donc on était beaucoup moins informés.
Ouais. Voilà. Ça, c'est quelle année du coup ?
C'était en 2002.
Ça a eu un déclic chez toi et c'est ce qui a causé, entre guillemets, l'attachement que tu as aujourd'hui du coup à ce conflit, c'est ça ?
Tout à fait, parce qu'en fait, j'ai cherché à comprendre. Je suis arrivée dans une ville qui s'appelle El Khalil. Le nom hébreu, c'est Hébron. Et là-bas, j'ai découvert un peuple. En fait, si vous voulez, la Palestine, elle est divisée. Il y a Gaza, il y a la Cisjordanie. Mmh. Et il y a 3 zones entre la Palestine et Israël. La zone A, la zone B, la zone C. La zone A qui est dirigée par Israël. La zone B qui est dirigée par l'autorité palestinienne et la zone C par les deux. Et El Khalil, c'est vraiment la ville par excellence où les colons et les Palestiniens vivent ensemble, mais genre vraiment ensemble. C'est-à-dire que la maison A, ça peut appartenir à un Palestinien et la maison B à un sioniste israélien. Donc c'est très, très compliqué. Donc en fait, tout de suite, j'ai été dans le vif du sujet, entre guillemets. C'est-à-dire que les humiliations, les arrestations arbitraires, des violences sur les enfants, moi j'ai tout vu d'un coup en fait, donc c'était impossible pour moi rentrer en France de laisser ça derrière moi en fait. Tu peux pas en fait, et je pense que tous les gens avec qui j'ai parlé qui ont mis les pieds là-bas une fois, ils sont, enfin, tu peux pas, tu rentres, t'es obligé, tu peux pas laisser ça derrière toi. Il y a un avant et un après en fait.
Ouais, c'est le choc en fait de voir ça de ses yeux. Ça crée quelque chose.
Bah surtout qu'après, tu te rends compte qu'en fait, personne n'en parle. Et surtout que moi, je suis de nature assez engagée sur plein de choses. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne qui parle de ça ? Moi, j'ai vu des faits super graves. Des soldats de Tsahal qui vidaient des cartables des enfants avant d'aller à l'école, des gamins qui rentraient de l'école et qui se retrouvaient dehors parce qu'on leur avait volé leur maison. C'est des trucs hyper graves et je me demandais comment c'est possible que personne n'en parle en fait. Donc voilà, dans ma quête de vérité, finalement, j'ai jamais lâché.
T'as pu retourner depuis 2002
J'y suis retournée plusieurs fois. Depuis 2013, je suis bloquée. Je suis bloquée parce que j'ai essayé d'y aller par l'Égypte au moment où Al-Sisi venait d'entrer au pouvoir. Et ils nous ont bloqués en Égypte, ils nous ont confisqué les passeports. On est resté 3 jours sur le tarmac de l'aéroport à protester. Et non, ils nous ont bloqués en fait.
Parce qu'on ne peut pas y aller en passant directement par Israël.
Si, mais on était nombreux et on savait que ça allait être cuit. Donc t'as soit par Israël, soit par Jordanie, soit par l'Égypte. Il y a un passage qui s'appelle Rafah. Et qui te permet, en fait, c'est le seul passage par l'Égypte qui te permet d'aller à Gaza.
Et toi, du coup, dans ton action, est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu es accompagnée de personnes, une association, une orga?
Alors, moi, je suis un peu partout, en fait. Je suis en électron libre, j'aime bien aller là où il y a besoin. Mais je me suis quand même... je suis vachement proche d'une association qui s'appelle Euro-Palestine. Euro-Palestine, c'est, à mon sens, je pense, et tout le monde le dira, l'association... la plus problématique pour l'État sioniste, parce que sa dirigeante, c'est vrai qu'elle est très charismatique, elle s'appelle Olivia Zemmour. Elle est prise pour cible tout le temps. D'ailleurs, en avril encore, j'étais à Lyon pour un procès qui l'opposait à l'État d'Israël pour des appels au boycott. Donc c'est vraiment pour moi une association... ils sont sur tous les fronts, ils bougent tout le temps, ils n'attendent pas en fait, qu'il y ait des massacres de masse comme il y a pu avoir récemment. Pour bouger, et c'est ça qui me plaît. Après, quand il y a des... peu importe quelle association, quelle couleur, je m'en fiche, tant que ça peut aider les Palestiniens, moi je m'en fiche.
Il y a un mot qui revient souvent quand on parle, c'est sionisme. Et en ce moment, il y a un débat sur est-ce que tous les Israéliens le sont, etc. Toi, tu as été sur place, tu as pu rencontrer la population, et quel son de cloche t'entends là-bas?
Moi, ce que j'en pense aujourd'hui, après c'est mon avis, et je pense qu'on est tous, tous ceux qui connaissent, ils ont à peu près le même avis. Y a un réel changement qui est en train de s'opérer en Palestine occupée, en Israël. C'est vrai que la propagande sioniste, elle est très très forte, hein, très puissante. C'est vrai qu'il y a beaucoup 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 de sionistes, et j'arrive même plus, j'arrive même pas à leur en vouloir quand j'entends des gamins de 14-15 ans, parce que c'est comme un lavage de cerveau en fait. On leur fait croire qu'ils sont en danger tout le temps, on leur fait croire que les Palestiniens, c'est des terroristes. Donc forcément, tu grandis avec ça, c'est une idéologie que tu intègres, et puis voilà. Mais j'ai vu la différence, la gauche israélienne est en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de jeunes qu'on appelle les réfusniks qui refusent de servir dans l'armée d'occupation.
Le Tzahal.
Exactement. Et qui refusent, et donc qui sont jetés en prison. Donc ils commencent à se rendre compte, de plus en plus jeunes, qu'il y a un problème avec le gouvernement, en fait. Et ils commencent à se rendre compte qu'en fait, les Palestiniens, c'est pas ce qu'on décrit depuis qu'ils sont petits. Donc, même si le sionisme, c'est une idéologie qui est très, très forte, franchement, j'ai foi en demain, parce que les militants israéliens sur place, ils sont de plus en plus nombreux quand même.
Il y a aussi des intellectuels, pour en citer un, Ziv Sternel, je sais pas si tu connais, mais lui, par exemple, il dit que dans la Torah, dans la religion juive, ce qui se passe là-bas, sur place, en fait, c'est censé être interdit. Parce que si la terre, ils doivent la récupérer, elle est censée venir à eux, limite. Et donc, du coup, je pense que c'est par rapport aussi à ça que la gauche israélienne est en train de monter, peut-être. Peut-être qu'il y a eu une confrontation, tu vois, des idéologies entre la religion et la politique. Je ne sais pas ce que tu en penses.
C'est très compliqué, parce que le sionisme... C'est complètement... Enfin, ça n'a rien de religieux, en fait, tu vois. Et tu as effectivement les juifs orthodoxes qui sont très pratiquants, et tu les vois, sur les réseaux, il y a plein de photos, vous avez pu voir, et qui brûlent le drapeau israélien, etc. Parce qu'effectivement, eux, dans leur doctrine, dans la Torah, pour eux, ils sont censés errer sur terre tant que le Messie n'est pas arrivé et leur a indiqué, voilà, c'est cette terre-là que tu vas occuper, effectivement. Je ne sais pas si ça a un réel impact, parce que ça, depuis toujours, en fait, les juifs orthodoxes et ceux que tu nommes, ils ont toujours tenu ce discours et eu cette doctrine. Non, je pense vraiment que, en fait, à un moment donné, Israël et ses dirigeants, Netanyahou, ils montent de plus en plus... chaque année, ils augmentent la violence, ils augmentent le cran des atrocités, etc. Et à un moment donné, bah, les gens, ils commencent à... Enfin, comme je te dis, merci les réseaux sociaux, parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus cacher. C'est plus possible. Donc les gens, ils prennent conscience.
Mais au final, l'aspect un peu négatif de la chose, c'est que les réseaux sociaux, ça le monte d'un coup. Mais ça a le malheur de le faire disparaître d'un coup ici, parce que du coup, c'est du buzz, en fait. C'est de l'actu, tu vois. Et du coup, comment... Moi, je vais prendre un exemple. Je vais sur Paris. Il y a 8 manifestations de la Palestine différentes. Une à Châtelet, une à République, une là-bas, 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 là-bas. Et en fait, il n'y a pas d'union. Tu vois, c'est chacun un jour choisi, je trouve. Et c'est relou.
Ouais, non, mais je comprends. Alors, moi, contrairement à toi, tu vois, je vois le truc de manière positive. Alors oui, c'est relou. Parce que, en effet, tu parles d'union, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations palestiniennes. Comme dans toutes les causes, il y en a beaucoup qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas d'accord, qui ne suivent pas le même courant. Enfin, voilà. Mais moi, par exemple, la manifestation qui a été interdite récemment, je pense que si on avait voulu que Paris soit aux couleurs de la Palestine, on n'aurait jamais réussi. Mais le fait qu'ils aient interdit, y avait des petites manifestations un peu partout. Du coup, on était présents partout, tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je vois le truc comme ça, en fait. Je me dis, voilà, au moins, on touche plus de monde.
Ok, je vois. Voilà. Et nous, en réponse, nous, en tant qu'Occidentaux, parce qu'il y a plein de personnes qui ont peut-être peur du mot « s'engager », d'aller sur place. Donc comment l'être humain lambda, le français lambda, pour toi, peut intervenir dans ce conflit ? Peut s'engager, entre guillemets.
Alors, s'engager, intervenir dans ce conflit, c'est délicat. Hein. Aller là-bas, c'est très délicat aussi. J'invite tous ceux qui peuvent y aller à y aller. Mais il faut être préparé, hein, parce que tu ne peux pas y aller comme ça. Ce n'est pas avec un passeport, un visa, non. C'est des heures et des heures d'interrogatoire. C'est risqué. Il faut être préparé au fait qu'ils te refusent l'accès et parfois ils te le refusent pendant 10 ans, comme ça m'est arrivé à moi. S'engager, c'est le boycott. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la seule façon de s'engager véritablement, c'est d'opérer un boycott quotidien, tout le temps, dans la vie de tous les jours, tout le temps. Et c'est de prendre part aux manifestations, c'est de s'interroger aussi sur le conflit, de s'informer, de faire connaître la Palestine, de faire vivre la Palestine à travers plein de choses. Et, culturellement, culinairement, moi j'ai une amie à moi qui s'appelle Rania, qui a ouvert le premier restaurant palestinien à Porte de la Chapelle, qui s'appelle Hardy. Et comme elle dit, elle, la résistance est dans l'assiette. C'est sa manière à elle de résister. Parce qu'aujourd'hui, on va vers, si ça continue comme ça, on va vers la disparition de cette culture et de la Palestine. Et je pense que nous, on doit, en connaissance de cause, faire vivre en fait, la Palestine à travers tout ça.
Tu parlais du boycott. Pour toi, le boycott, du coup, ça a un réel impact sur l'économie israélienne, sur...
Alors non, ça n'a pas un impact sur l'économie israélienne. Enfin, oui et non. Je vais m'expliquer. En fait,
parce qu'il y a des grands lobbies derrière.
Ouais. Bien évidemment que ce n'est pas le boycott des oranges, de Jaffa, des dattes Medjool ou du basilic made in Israël qui va faire plier Israël. Et ce n'est pas ça, c'est pas tant le problème. Ce n'est pas l'économie en fait, qu'on vise. C'est que ce qui est en train d'arriver, à force de boycotter, c'est qu'en fait, Israël, ça devient un paria. Ça devient... ils sont en train de s'isoler du monde entier parce que tout le monde les regarde et les pointe du doigt. Et ça, ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire qu'ils revendiquent être la démocratie du Moyen-Orient. Et là, tout le monde est en train de voir, en train de dire, mais non, mais attendez, on voit, on sait tous. Et c'est ça qui fait plier, en général, les gouvernements d'apartheid, comme ça a été le cas en Afrique du Sud. Comme ça a été le cas avec Rosa Parks et Martin Luther King. Bien évidemment qu'ils n'ont pas mis à genoux l'économie américaine. Mais leur réputation à Israël est comme... les États, comme la France, ils y tiennent en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important de boycotter, c'est pour ça que ça touche pas forcément l'économie, parce que en vrai de vrai, Israël, ils se font leur argent sur les ventes d'armes, les ventes de technologies d'espionnage de masse, hein. C'est-à-dire qu'on en parle souvent, et d'ailleurs la France le prend beaucoup en exemple. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui réclament justement une surveillance de masse à l'israélienne en France. Ils se font l'argent sur ça, c'est pas tant sur les oranges et les fruits volés. Hein, donc.
Du coup, Sabrina, tu avais une question ?
Alors oui, moi, ma question, c'est, vous parlez de boycotter, mais est-ce que attaquer l'économie, ça aide en fait réellement ? Parce que imaginons, on a boycotté Israël, est-ce que ça va pas les énerver ? Ils vont pas s'attaquer aux Palestiniens en retour pour,
Je pense que l'histoire témoigne, ils ont pas attendu le boycott pour s'énerver sur les Palestiniens, tu vois. Et je pense pas que ce soit... ils s'attaquent pas forcément aux Palestiniens, ils s'attaquent à nous en fait. Nous, les militants pro-palestiniens, les boycotteurs, entre guillemets, on est diabolisés, on est tout le temps. On a des procès tout le temps. Moi, je suis pas une. Enfin, vous voyez, je suis pas une délinquante ou quoi que ce soit, mais les quinzaines ou vingtaines de gardes à vue que j'ai faites, c'est à cause de ça. C'est à cause du port du t-shirt vert, c'est à cause de l'appel au boycott. J'ai jamais rien eu. Donc je pense que c'est l'intimidation plus qu'autre chose, parce qu'en fait, c'est pas illégal, finalement. Ils veulent nous faire croire que c'est illégal, mais pas du tout. J'ai jamais rien eu, j'ai toujours été lavée, je suis sortie avec des non-lieux, rien du tout. Donc, non, je suis pas certaine que ça ait un impact, forcément, sur leur action, après, sur les Palestiniens.
Narges ?
Moi, je veux savoir comment on boycotte et qu'est-ce qu'on boycotte ? Parce qu'en vrai, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui imaginent Israël, mais qu'il n'y a pas écrit Made in Israël, il y a écrit Made in France ou autre. Mm-hmm. Donc, comment on peut savoir ça ?
Il faut se renseigner déjà. Donc, tu as la campagne BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Donc, la campagne BDS, elle a été créée en 2005 par la société civile palestinienne. Hein, ce n'est pas des Français, c'est vraiment le fondateur, c'est Marwan Barghouti, qui a fait un appel de conscience à plus de 180 associations, je crois, en leur expliquant qu'à un moment donné, il fallait se lever, il fallait faire quelque chose. Et donc, ils ont mis en place la campagne BDS. Alors effectivement, quand tu regardes dans les médias, quand tu regardes partout, les livres et tout, enfin les réseaux, tu as des listes à rallonge avec 1 milliard de produits à boycotter. Pour moi, c'est contre-productif. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas tout boycotter et qu'à un moment donné, si tu fais trop, tu vas lâcher l'affaire. Il faut s'attaquer à une liste simple et concise qui évolue souvent. Là, aujourd'hui, par exemple, c'est les fruits et les légumes, ça c'est clair, parce que ça pousse sur des colonies, donc des terres qui sont volées, les fruits et légumes made in Israël. Et les grandes enseignes savent, comme Auchan, Carrefour et tout ça, parce que quand tu vas dans les magasins et que tu vois, il y a beaucoup de tromperies sur la, je sais pas si vous avez déjà remarqué, de tromperies sur l'étiquetage.
Ouais, c'est ça, ouais, en fait.
C'est ça. Faut être très vigilant, ça. Ils le savent en fait que ça ne fonctionne plus. Et en fait, tellement le boycott a pris de l'ampleur, qu'ils sont obligés de passer par là, tu vois. Et ça, je pense que c'est l'étape ultime. Après la disparition, moi je sais que dans mon magasin, par exemple, je boycotte les fruits et légumes. À chaque fois que je voyais Made in Israël, je tapais des scandales, ils n'en vendent plus. Tu vois ? Donc tu as les fruits et légumes, tu as les laboratoires pharmaceutiques Teva, donc c'est des génériques, il y a Spasfon, il y a d'autres médicaments assez connus. Teva, c'est hyper important. Tu as quoi ? Tu as le SodaStream qu'on boycotte. Et il y a 2-3 autres marques, mais c'est vraiment un boycott ciblé.
Mais il y a aussi normalement un numéro. Dans le
numéro de code barre, ouais, mais ils le changent tout le temps, c'est ça aussi. Ils ont des petites. C'est comme Made in Israël, maintenant ils ont changé, ils mettent plus Made in Israël, ils mettent importation ou IL. Ils changent tout le temps, ils ont plein de petites astuces pour changer, donc je sais pas si c'est fiable. C'est pour ça que je dis que t'as vraiment. Enfin, ça évolue à chaque fois, faut regarder sur le site BDS. Là par exemple, il y a aussi Puma, parce que Puma, ils sont associés. On a réussi à faire plier Adidas, mais Puma, c'est devenu le nouveau sponsor de l'équipe de football israélienne. Donc, il y a un appel boycott massif depuis 2 ans de Puma.
Au-delà du boycott, il y a eu.
Fuma.
Ah, mais je ne savais pas à ce moment-là. Je ne savais pas.
Il n'y a pas les images, mais on a. Nawel a dit ça parce que Narges porte du Puma.
Je tiens à préciser qu'on me l'a offert.
Non, mais ça se trouve, ils n'étaient pas encore associés avec l'équipe de football israélienne.
Ça fait longtemps que je les ai. Donc
c'est bon.
Au-delà du boycott, du coup, je disais, d'autres formes d'aide ont été mises en place. Il y a eu des campagnes d'aide, de dons ces derniers temps. Mm-hmm. Et en fait, ça a été dit que les dons n'arrivaient pas aux Palestiniens et étaient bloqués par le gouvernement israélien. Est-ce que tu as des nouvelles de ça ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Enfin, est-ce que tu en sais un peu plus sur ça ?
J'en sais un petit peu. C'est-à-dire que les banques ont ordre de verrouiller, mais ils ne peuvent pas bloquer ad vitam aeternam. Et donc, on arrive à des petites astuces pour envoyer de l'argent de manière fractionnée. Genre, on ouvre des cagnottes, on met 400... Par exemple, si on fait des campagnes de dons pour la dernière en date que j'ai faite, c'était pour un hôpital, l'hôpital Shifa à Gaza, on a récolté 15 000 euros. Bah, malheureusement, on est obligé de les envoyer par 400 euros par-ci, 300 euros par-là, de manière à ce que ça parte. Mais effectivement, c'est verrouillé. Mais à un moment donné, c'est pas tout le temps. C'est pas... Il ne bloque pas indéfiniment, si tu veux.
Okay.
Mais c'est très compliqué, effectivement, d'envoyer de l'argent à Gaza. Il y a des associations sur place qui sont là et qui bossent à l'année. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit y en avoir 3-4. Par exemple, il y a le Secours islamique, il y a des bureaux là-bas. Il y a Human Appeal aussi. Il y a le secours populaire. Par exemple, moi, à Argenteuil, on a une association et on envoyait de l'argent via le secours populaire au PMRS, donc c'est les ambulances mobiles. D'ailleurs, si je peux me permettre, le 1er juin, il y a 3 ans, ça fait 3 ans aujourd'hui, on avait envoyé de l'argent au PMRS, donc à Gaza. Donc en fait, ils investissent dans des ambulances mobiles parce qu'Israël, à chaque fois qu'il y a des agressions sur Gaza, tout de suite, ils bombardent les hôpitaux et les bibliothèques. Voilà. Et donc, c'est les ambulances mobiles qui permettent d'aller dans tous les quartiers pour aller soigner les gens. Et il y a 3 ans, il y a une jeune qui s'appelait Razan, qui avait 21 ans, qui était bénévole donc à l'association PMRS, qui a été tuée par Israël. Et ça fait 3 ans aujourd'hui. Elle était en train de sauver un homme et elle s'est reçue une balle dans la poitrine.
Voilà. Bien son âme, je connais.
Mais moi, je parlais avec des amis à moi et en fait, on voyait pas la porte de sortie de ce conflit parce qu'on se disait qu'il devait y avoir une prise de conscience déjà dans le monde musulman.
Ouais.
Et qu'en fait, au final, pour des histoires d'argent, d'intérêt politique, quand t'as le plus... Bon, on va parler de l'Arabie Saoudite qui est le plus grand pays musulman, censé l'être, et qui a la Mecque, qui en profite et qui avait d'ailleurs interdit le pèlerinage aux Palestiniens. Je sais pas si c'est toujours en vigueur, mais ça l'était. Pour ses intérêts avec les États-Unis, n'intervient pas en faveur de ses enfants, en fait, limite. Parce qu'au final, encore une fois, il devrait y avoir une certaine unité. Que le Maroc aussi, par exemple, reconnaisse l'État d'Israël. Enfin, il y a plein de signes qui montrent que c'est devenu limite normal, qu'ils se sont accommodés de la situation.
Alors, l'attaque de cette fois-ci, elle est différente parce que, et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de pays musulmans quand même qui se sont soulevés, parce que là, ils se sont attaqués quand même au troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Mais pourquoi ? Parce que ça revient toujours à ce que... Enfin, les gens, ils se trompent complètement, c'est pas un conflit religieux. C'est-à-dire que c'est pas plus les musulmans qui devraient intervenir plus que d'autres personnes. Par exemple, moi, j'ai fait des campagnes, je suis allée en Palestine à Noël. Les chrétiens, ils sont tout aussi les Palestiniens chrétiens, il y en a beaucoup. Ils sont tout aussi réprimés que les Palestiniens musulmans, en fait. Et c'est en ça qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est pas un conflit religieux.
Et ça, on l'entend peu. Enfin, j'entends jamais parler des Palestiniens chrétiens.
Mais il y en a beaucoup.
Par exemple, tu vois.
Il y en a énormément. Il y en a énormément. Et il faut arrêter. C'est vraiment c'est la domination d'un peuple sur un autre, en fait. C'est la colonisation le vrai problème. C'est pas une guerre de religion, vraiment pas. Et ça, il faut vraiment l'intégrer, parce que en faisant justement, en diffusant ce message-là, ça va même. Enfin, il y a des gens qui se disent peut-être, ah c'est bon, je m'en fous, leur conflit juif contre musulman. Mais non, en fait, il faut leur expliquer que c'est pas un conflit interreligieux. Et ça va peut-être les amener justement à venir dans nos rangs, en fait, combattre les injustices tout simplement.
Ouais, c'est une colonisation, un apartheid.
C'est ça.
Tout à l'heure, t'avais dit comme quoi, avant, on n'entendait plus parler assez de la Palestine. Et du coup, j'aimerais savoir, entre avant et maintenant, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a un changement ?
Avant quoi ?
Quand tu parlais des réseaux sociaux,
tout à l'heure. Oui, quand tu parlais de réseaux sociaux, on n'entendait pas assez parler de la Palestine. On ignorait complètement ce qui s'est passé.
Oui, avant, il n'y avait pas le blocus de Gaza. Gaza est sous blocus depuis 2006. Et ça, c'est la pire des choses qui a pu arriver à la Palestine. C'est-à-dire que, t'imagines, il n'y a plus aujourd'hui, il doit être plus de 2 millions sur Gaza, sur 360 km² seulement, tu vois. Enfin, c'est énorme. Ils sont entassés, ils n'ont pas le droit de sortir, pas le droit d'aller voir leur famille, ils n'ont pas le droit d'aller pêcher dans les eaux territoriales, ils n'ont pas le droit de... Ils n'ont rien le droit de faire, en fait. Ils sont vraiment en prison à ciel ouvert. Et c'est aussi ce qui change... c'est aussi pourquoi on parle plus de la Palestine aujourd'hui, parce que moi j'appelle ça un camp de concentration, parce qu'en fait ils sont concentrés sans moyen de rien du tout et on les bombarde. Voilà, ils peuvent pas sortir. Ce qui rentre en Palestine aussi, c'est contrôlé, il y a pas tout qui rentre. Hein. Par exemple, c'est des soldats, c'est une commission de soldats qui décide au jour le jour qu'est-ce qui va pouvoir entrer en Palestine. Aujourd'hui non, les abricots ne rentrent pas. Voilà, on estime que voilà. Donc la sauce tomate, c'est considéré comme la sauce tomate, le concentré de tomate, c'est bidon, hein. C'est considéré comme un produit de luxe. Donc ça rentre pas à Gaza. La banane, oui. Les abricots, non. Le chocolat, ça rentre pas à Gaza.
Moi, je reprends sur le fait que tu as dit tout à l'heure. Quand tu es parti en Palestine, tu as été vraiment extrêmement touché par ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est pas au fait comme quoi toi, tu as toujours été libre, tu as vécu dans un pays libre, tu faisais ce que tu voulais, et le fait de partir en Palestine et de voir ce qui se passe là-bas, ça t'a culpabilisé en quelque sorte ?
Bien entendu que j'avais forcément ce sentiment de culpabilité, mais je me suis forcée à passer outre parce que c'est complètement improductif. Parce que si tu, enfin, j'avais ce sentiment de tristesse, de culpabilité. Je suis rentrée, j'étais à plat. Je me dis, mais comment ça se fait, des enfants? Mais tu peux pas et être triste et être dans l'action, en fait. Alors, je dis pas que maintenant j'ai plus de cœur, hein, que je suis pas sensible du tout, bien au contraire. Mais bah forcément, oui, on culpabilise parce qu'on se dit comment. Enfin, limite, moi, quand je suis rentrée, je m'interdisais de faire plein de choses. Parce que, par exemple, un exemple, moi, j'ai fait venir des enfants de Palestine à 3 reprises en France, dans le cadre d'un voyage linguistique et culturel. Et en fait, c'est revenu. Quand je les ai vus profiter, kiffer, et le soir pleurer, parce que ils se demandaient pourquoi ils pouvaient pas vivre ça tout le temps. Tous les jours vivre librement, bah ça, ce sentiment est revenu, mais il faut passer outre, t'es obligé, sinon c'est pas la peine. Et ils ont besoin de personnes qui les tirent vers le haut, et pour ça faut être fort, en fait. Voilà.
Moi tout à l'heure je voulais te dire quelque chose, c'était par rapport à l'eau en Palestine. On n'en parle pas assez, je trouve. Quand j'étais au Bourget, il y avait une association, elle donnait de l'eau de Palestine, et j'avais bu, et pour te dire, j'ai eu les larmes aux yeux tellement c'était horrible, en fait, imbuvable. Et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais pourquoi on n'en parle pas assez ?
Alors là, l'eau, c'est un sujet très, très important. Parce qu'en fait, l'eau est en Palestine. Il n'y a pas d'eau en Israël. Enfin, dans les territoires qu'ils ont volés, elle est en Palestine. Et en fait, l'eau à Gaza, elle est pas potable, en fait. Je crois que l'OMS préconise, l'Organisation Mondiale de la Santé, préconise un taux de nitrate de l'ordre de 50 mg par litre. L'eau des Palestiniens, elle en contient entre 100 et 500 mg par litre. Ouais, donc, les maladies des Gazaouis, c'est essentiellement lié à l'eau. Voilà, l'eau, c'est vraiment un sujet essentiel dans la colonisation israélienne.
Et on parle aussi du fait qu'ils n'aient pas beaucoup d'électricité aussi dans la journée. Mmh. Et bah, du coup, l'eau aussi. Hmm, bah, c'est comment, en fait?
Quand nous, l'OMS préconise à l'humain de boire 1,5 litre d'eau, les Palestiniens, en moyenne, ils peuvent boire, parce qu'on les Israël autorise, à peu près 800 millilitres d'eau par jour. Électricité, c'est pareil. Mais en fait, c'est une façon, c'est de la torture. En fait, c'est une façon d'essayer de décourager les Palestiniens de résister. Tu vois? 4 heures par jour d'électricité. Il y a beaucoup d'enfants palestiniens qui sont morts, brûlés, vifs, parce qu'ils s'éclairent à la bougie. Tu vois, ils essayent de décourager les Palestiniens. Par exemple, il y a une loi qui s'appelle la loi dite des absents. Alors, c'est incroyable. C'est-à-dire que si pendant 2 ans, tu n'as pas occupé une parcelle de terre, il revient à la force occupante. Bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font en sorte d'inonder ces parcelles. Donc, elles sont impraticables. Tu ne peux rien construire dessus, tu ne peux rien faire. Bah, pendant 2 ans, au bout de 2 ans, ça appartient. C'est de la torture, c'est de l'humiliation, c'est de la torture. Ils essayent vraiment de les dissuader, de résister et d'abandonner, en fait. Voilà. L'eau, l'électricité, ça fait partie du schéma, du plan.
Moi, j'aimerais connaître l'impact qu'il y a eu cette année au niveau des bombardements. Il y a eu combien de décès ? Combien d'enfants décédés, combien de femmes et combien de personnes qui ont été touchées d'une autre manière.
Je ne pense pas que tu as tout le bilan en tête.
J'ai pas tout le bilan, j'ai à peu près.
À
peu près, au niveau des morts, il y en a à peu près 200, un peu plus de 250, essentiellement des enfants, enfin beaucoup d'enfants en tout cas. Les blessés, je crois qu'il y en a eu 3000 et quelques cette année. Les arrestations. Ça continue encore, donc les arrestations, et je crois qu'il y en est sur du 3000. Il faut savoir aussi que les arrestations, Israël pratique la détention administrative. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le fait de... Vous savez
non,
c'est
moi,
c'est le
moi,
fait
moi, c'est
de d'emprisonner quelqu'un à durer pendant 6 mois, sans jugement, sans avocat, sans rien du tout, de manière illimitée, renouvelable tous les 6 mois. la détention administrative. Il y a des enfants qui sont dans les geôles israéliennes depuis 3-4 ans, qui n'ont pas encore eu de procès pour des jets de pierre. Voilà. Donc tous ceux qui ont été arrêtés là, cette année, je ne sais pas, on sait, en fait, ils ne savent pas. Il faut savoir aussi qu'ils ont 32 jours, Israël, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et que les familles, si tu veux, en France, quand il y a quelqu'un qui est en prison, tout de suite, on prévient un membre de la famille. Là, pendant 32 jours, ils ont le droit de ne pas prévenir la famille. Il faut aussi savoir que parfois, quand il y a des gens qui meurent pendant leur peine, Israël rend le corps à la famille une fois que la peine, en fait, a été est finie. C'est-à-dire que si tu prends 4 ans et que tu meurs au bout de 6 mois, bah, on te rendra le corps, enfin, on rendra ton corps que à la fin de la peine. Voilà.
C'est honteux, c'est...
C'est horrible.
C'est ça.
Et quand tu parles des 36 jours, c'est...
32 jours.
32, ouais. 32 jours, mais genre, c'est une période de l'année exacte ou...
Non, genre, par exemple, si moi, mon enfant, il jette une pierre sur un soldat, alors souvent, c'est pas vérifié. Hein. Ça se trouve, il jette pas. Il hein. y a personne pour vérifier, il y a rien du tout. On estime qu'il a jeté une pierre, ok. On prend mon enfant, même s'il est mineur, et bah, pendant 32 jours, tu peux, t'as pas de nouvelles, tu sais pas ce qu'il en est. Et Israël a le droit de garder le silence sur... ce qui se passe pendant 32 jours.
Et il y a un âge où...
Il y a un âge, normalement, c'est à partir... Ils ont abaissé l'âge à 14 ans, il y a 2 ans. Mais il y a des gamins qui ont 12 ans, 9 ans, parfois arrêtés. Enfin, il n'y a pas d'âge.
Il y a eu des bombardements en Israël, de ce que j'ai entendu. Il y a eu combien de décès? Et est-ce qu'il y a des enfants et des femmes? C'est ça la question.
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, Israël, soucieux justement de toujours préserver son image de guerrier, on est les plus forts, on est les meilleurs, on gagne tout le temps, il nous cache les chiffres. Les vrais chiffres, on ne les connaît pas. Moi, je suis en connexion avec beaucoup de monde là-bas, donc évidemment, il y a eu des morts. Et c'est pour ça que ça s'est arrêté aussi rapidement, parce que d'habitude, ça ne s'arrête pas aussi vite, les bombardements. En 2014, c'était 53 jours. Là ça a duré une dizaine de jours, je crois, un truc comme ça. C'est déjà énorme. Mais il y a eu beaucoup de morts côté israélien, parce que c'est la première fois qu'il y a des villes habitées, comme Ashdod, Ashkenon, Tel Aviv, qui ont été bombardées sans... Enfin voilà, ils n'ont pas hésité. Et il y a eu des morts, effectivement, mais ils nous les cachent. On ne saura jamais les chiffres véritables. C'est comme les alias. L'alia, c'est le fait, les juifs de France qui vont vivre en Israël. On nous donne des chiffres des gens qui vont vivre en Israël, mais pas les chiffres des gens qui reviennent. Parce qu'il faut savoir aussi que... Et c'est aussi pour ça qu'il y a une prise de conscience. C'est aussi pour ça que la gauche israélienne se lève. Et c'est aussi pour ça qu'il y a même des gens qui avaient une idéologie un peu dure contre les Palestiniens. Et ils se radoucissent un peu parce qu'en fait, vivre en Israël, c'est pas du tout repos non plus. Ben, à un moment donné, tu commets des atrocités, ton gouvernement... Mais bien sûr que tu peux pas vivre sereinement, t'as peur. Et il y en a beaucoup qui reviennent, en fait. Qui reviennent en France. Énormément.
Ouais, donc on n'a pas les chiffres.
On n'a pas les chiffres.
On peut pas savoir.
Non.
Ok. Bah, moi, je voulais parler des manifestations. Est-ce que vraiment ça aide les Palestiniens ou pas?
Alors ça aide, nous quand on fait les manifestations, déjà c'est pour interpeller l'opinion publique et nos gouvernements qui prennent position. Mais c'est aussi parce que les Palestiniens, ouais, ça leur donne de la force. Moi je sais que la dernière fois que j'y suis allée, ils avaient des espèces de lutins avec des photos des manifestations dans le monde entier en fait. Ça leur donne de la force et ça leur donne la volonté de continuer parce qu'aussi, ils ont une fierté, ils ont envie de montrer au monde entier qu'ils résistent, qu'ils sont là. Et le fait de voir que le monde entier se soulève pour eux et qu'ils ne sont pas seuls, ouais, c'est en ça que ça les aide vraiment. C'est pour leur donner du courage.
Ouais, voilà. Donc c'est important pour eux, en fait. C'est
important pour eux, très important. Okay.
Moi, j'ai une question. Toi, en tant que Nawel, quand tu sors dehors et que tu en parles aux inconnus, ça fait quoi? C'est quoi leur réaction?
Enfin, ça dépend des situations. Souvent, bah, moi, je suis sur plein de rassemblements régulièrement. Hein. Beaucoup à Châtelet en ce moment. Donc, quand on est dans le cadre de rassemblements, les gens qui s'arrêtent et qui me parlent, c'est des gens qui sont concernés et qui s'intéressent un petit peu. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sionistes qui s'arrêtent hein, et qui me sortent des trucs. Mais oui, de toute façon, c'est nous qui avons l'argent. Vous pourrez rien contre nous, oui, qui crache, enfin, qui nous insulte, il y en a énormément. Mais la plupart des gens, ils cherchent quand même à savoir, ils s'intéressent. Après, il y a des gens même qui me voient dans le métro, comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai un sac, ça se voit pas, mais j'ai un sac Free Palestine, j'ai un collier, j'ai des bracelets. Et comme je disais, d'ailleurs, j'avais un bracelet tout à l'heure, je l'ai donné. On m'a dit, ouais, il est beau, et ça m'arrive tout le temps de le donner. Enfin, je le mets tout le temps et à chaque fois, on me le demande. Mais moi, je le donne sans problème parce que je me dis, voilà, la personne, elle va le porter. Ouais. Et ça va être encore les couleurs de la Palestine. Et ça va faire exister, encore une fois, la Palestine. C'est important. Mais en général, moi, quand j'aborde les gens, après, il y a des façons de... Moi, je connais mon sujet. C'est aussi dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sans véritablement connaître et qui font des erreurs. Bah, comme par exemple parler de religion et de... Et associer la religion à cette situation, je trouve que c'est pas un bon calcul, pour ma part en tout cas, parce que c'est pas vrai, et du coup ça peut rebuter les gens en fait. Mais en général...
Et pour des personnes qui veulent s'engager mais qui hésitent par peur, tu le conseillerais quoi?
En fait, moi je suis tellement convaincue du truc, c'est-à-dire que s'engager c'est primordial aujourd'hui, enfin, on est dans une... Dans une ère où tu peux plus rester. Il y a tellement d'injustices, tellement de trucs qui se passent aujourd'hui. Si c'est pas pour la Palestine, moi je suis sur plein de combats en même temps. Mais c'est, enfin, moi tout ce que je dirais aux gens, c'est mettez-vous à leur place en fait. Voilà, c'est tout. Mets-toi à leur place. C'est-à-dire que si t'étais à leur place, il y a pas de peur, il y a pas de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à comprendre. Je peux comprendre parce que c'est un sujet quand même. Qui est assez compliqué parce que il y a aussi le chantage à l'antisémitisme et voilà, c'est compréhensif, mais en fait je leur dirais qu'il faut pas avoir peur. Tu peux pas avoir peur parce qu'on est du bon côté. En fait, à partir du moment où tu es convaincu d'être du bon côté, du côté de la justice, tu peux pas avoir peur. Voilà.
Bah, pour conclure, en fait, ce qu'on doit retenir, si j'ai bien tout écouté, c'est que du coup faut faire la différence entre l'aspect politique de la chose et l'aspect religieux. Il faut le mettre de côté parce que ce n'est pas du coup un conflit religieux. Mm-hmm. Pour agir, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a les boycotts, c'est la façon la plus simple selon toi. Il y a les dons, et il y a du coup s'engager et y aller. Mais tu disais qu'il faut être prêt mentalement parce que c'est vraiment...
Il y a aussi s'instruire en fait, se renseigner et pouvoir propager et expliquer ce qu'est la Palestine.
Ok. Manif. Ah ouais, les manifs.
Les manifestations, c'est pour donner de la force.
Ok. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans notre émission. Merci à toi. Merci à Narges. Merci à Georges. Merci à Sabrina. Merci à tous.
Merci
et on
beaucoup.
Se retrouve la prochaine fois pour le troisième opus.
Et puis on se retrouve en manifestation si jamais.
C'est ça.
Okay.
Bien sûr, venez nombreux.
Voilà.
C'est bizarre.
Exactement, c'est
je
bizarre.
Je dis simplement, c'est bizarre.
Première chose, bizarre.
Deuxième chose, bizarre.
Je trouve ça pour le moins bizarre.
Vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays.
Non, mais les journalistes, vous avez campagne. Ça d'extraordinaire.
Mais non, mais...
Vous foutez rien et vous reprochez aux autres de pas avoir fait. Non, vous foutez rien, vous n'avez pas écouté.
Les Concernés, l'émission de radio qui reprend la parole à ceux qui nous l'ont confisquée.